Chapitre 44. Jackson Pollock entre en transe. Comme l'été avait passé vite, ce lundi de septembre, alors qu'elle ouvrait les yeux, Mona se retrouva dégoulinante de sueur. Elle avait mal dormi. Elle s'apprêtait à entrer au collège et cette nuit, elle n'avait cessé de cauchemarder. En route pour son nouvel établissement, agitée par des nausées d'angoisse, elle enfonçait ses ongles dans la main de sa mère. Elle avait beau cacher sa peur, un mauvais pressentiment la taraudait. Des centaines de têtes brinque-ballantes s'engouffraient dans le bâtiment, d'aucune inquiète, d'autres arrogantes et bravaches. Cela piaillait, cela hurlait. Camille lâcha la main de sa fille. Elle aussi avait mal au cœur et son sourire d'au revoir tremblotait. Le couloir des sixièmes lui paraissait infini et résonnait de façon lugubre. La salle dans laquelle durent s'engouffrer Mona et la trentaine de camarades, dont elle ignorait tout, exhalait une odeur de vieux manoir de campagne. On ne chuchotait même plus. Son pupitre était au fond de la classe. Elle n'avait pas de voisin. Un jeune homme entra enfin. Vêtu d'un trois pièces et portant une lavalière, il dégageait un air hautain et paraissait d'emblée fâché d'être là. À peine eut-il le temps d'annoncer qu'il enseignerait le français que Mona tressaillit. Elle avait reconnu ce personnage. Au musée d'Orsay, devant le tableau de Van Gogh, c'était avec lui qu'elle avait eu une altercation. Elle avait fait mine de lui présenter des excuses après avoir ri devant la toile, puis le retrouvant plus tard dans une allée, elle l'avait ostensiblement nargué en lui tirant la langue. Sa funeste prémonition de la nuit n'était pas sans fondement. Elle se recroquevilla. Le monde s'avérait hermétique, indéchiffrable. Mona elle-même savait qu'elle était, pour les regards extérieurs, un hiéroglyphe parmi d'autres. La réalité s'était glacée. Que faire pour y trouver une prise? Par effraction, peut-être. Le professeur commença l'appel. Les voix qui répondaient à leur nom étaient presque inaudibles, et cette timidité réjouissait le maître des lieux. Quand ce fut le tour de Mona, au lieu de lever la main, elle imprima soudain une pression sur sa trousse. La poche se retourna et vomit tout l'attirail de stylo qui se fracassa par terre dans un vacarme inattendu. « Présente !» donna-t-elle en même temps. Le professeur fronça les sourcils, la regarda longuement, très longuement. Qui donc était cette insolente? Au bénéfice du doute, il considéra finalement l'incident comme une maladresse involontaire. La classe s'était tournée vers Mona. Tout le monde voyait son visage, et elle voyait le visage de tout le monde. Le mercredi après-midi, en marchant vers Beaubourg, coiffée de son ample capeline, Mona ne manqua évidemment pas de raconter à Henri l'incroyable mésaventure dont elle était victime. « Est-ce que tu te rends compte, Dadé? Mon professeur de français, qui plus est mon professeur principal, c'est pile celui dont je m'étais moqué quand on était ensemble au musée d'Orsay. » Le concours de circonstances était en effet extraordinaire et aurait mérité des développements sur les hasards du destin, la contingence et la nécessité, la prédétermination. Mais dans le récit de sa petite fille, il y avait un détail tellement stupéfiant qu'il monopolisa son esprit. Mona avait dit « qui plus est ?» Qui plus est ? C'était une formule d'adulte, le marqueur symbolique d'une maturation. « À quel âge ?» se demanda Henri. « Ai-je moi-même utilisé pour la première fois cette locution ?»« Ah, si seulement nous pouvions rembobiner le fil de notre existence !» et y refaire tout le film de son langage, le premier mot, la première phrase, la première occurrence vocale de « mort », de « beau », de « je t'aime » ou de « qui plus est ». « Ah !» s'agaçait Henri. « Quand donc ai-je utilisé ma première forme interrogative ?» Et il constata encore que dans la vie, la forme exclamative du langage précédait fatalement la forme affirmative. Tout commence avec les cris jaillissants d'un bouillonnement inarticulé. Son esprit fulminait. Et si l'on avait pu cartographier son cerveau à ce moment précis, Il lui ressemblait au tableau devant lequel Mona s'était arrêtée à sa propre demande en arpentant les couloirs du Musée national d'art moderne. Il s'agissait d'une œuvre abstraite, semblable à un chaos de matière, où se croisaient, s'enchevêtraient, se superposaient des traînées et des coulures de couleurs, parfois très fines à la façon de la ligne d'un dessin, parfois épaisses à la façon d'une tache. Elles étaient tantôt droites, sans jamais être tirées au cordeau non plus, tantôt courbes, voire en zigzag. La toile se trouvait ainsi entièrement saturée d'un extravagant réseau de sillons, de zébrures et de mouchetures, d'où ne se dégageait aucun motif reconnaissable. La seule comparaison avec un élément de réalité eût peut-être été celle avec l'état de salissure d'un morceau de tapis découpé, plus exactement d'un tapis destiné à protéger le sol d'un atelier d'artiste et sur lequel se seraient écrasés par accident et un peu partout les flux résiduels de pigments dilués. À ceci près que la toile, tout en étant le réceptacle d'un désordre éruptif et pâteux, s'avérait assez structurée. Non pas organisée ni composée, il n'y avait d'ailleurs ni centre ni périphérie identifiable, mais structurée par des rythmes et une cohérence d'ensemble. Ainsi, des masses noires, plus volumineuses, étaient réparties comme une dizaine d'archipels qui luttaient avec des flots de blanc. En quantité moindre, mais présente un peu partout, surgissaient des jets de jaune et de rouge, et par-dessus en abondance, s'étalait un entrelac de gris argenté dont les boucles étaient beaucoup plus nombreuses que pour les couleurs voisines. Il fallait noter que ces couleurs étaient chaque fois suffisamment denses pour se superposer sans s'absorber ni se mélanger les unes les autres, et surtout que le tableau avait l'air d'être le fragment isolé d'un tout sans limite. Henri se félicita que Mona ait voulu passer 30 minutes devant ce tableau de Jackson Pollock aux dimensions modestes, 60 cm sur 81, et non devant la toile voisine du même auteur qui était beaucoup plus grande. Il pensait en effet que l'esthétique du peintre américain s'avérait d'autant mieux compréhensible qu'elle se déployait à une échelle réduite. N'importe quel historien de l'art aurait pourtant crié à l'aberration, il le savait pertinemment. Car le mouvement de l'expressionnisme abstrait, né à New York dans l'immédiate après-guerre avec Marc Rothko, Franz Klein, Wilhelm de Kooning ou Robert Motherwell, se caractérise par une explosion de formes abstraites sur des surfaces imposantes, voire écrasantes. Mais Henri savait qu'il ne fallait pas toujours suivre la voie convenue des spécialistes pour percer le secret du génie humain. Mona, après s'être débarrassée d'une mouche qui semblait à tout prix vouloir se poser sur son nez, prit finalement la parole. « Tu vois, Dadé, on a vu jusqu'à présent des artistes qui savaient ce qu'ils faisaient. On sentait presque qu'ils avaient un plan, même quand c'était abstrait comme chez Malevitch ou Brancusi. Et là, pour la première fois, c'est très différent. C'est fait à l'improviste, tout ça. Mais je sais déjà ce que tu vas me dire. »
« Vraiment, Mona ? Eh bien, dis-le donc toi-même. »
« Tu vas dire que c'est plus compliqué. »
« C'est vrai, mais encore. »
« Tu vas dire qu'on croit que c'est fait à l'improviste, parce qu'il y a des jets de peinture qui vont partout et partent dans tous les sens, au point que le tableau ressemble à une nappe dégoûtante. Mais qu'en fait, ah, c'est complètement autre chose, que c'est harmonieux et que ça a été voulu par l'artiste. »
Henri eut un sourire aussi résigné qu'heureux. C'était à peu près ce qu'il comptait dire, en effet. Mais il essaya d'abord de replacer Pollock dans une perspective historique. Pollock, expliqua-t-il à Mona, n'était pas satisfait de la vieille tradition européenne qui voulait qu'un tableau soit ressemblant, fidèle à des motifs désignables par des mots. Hostile à l'illusion d'une profondeur par la maîtrise de la perspective, il souhaitait réaliser une peinture qui enregistre une énergie beaucoup plus fondamentale, celle du corps, des gestes, de la rapidité, des accidents, des hasards. À son sujet, on parla donc d'action painting. On prétendit même que la toile se métamorphosait en arène, parce que le tableau ne contenait ni anecdote ni symbole, ne racontait rien. Elle ne faisait que capter et enregistrer la fourria de l'artiste devant elle. Elle ne représentait pas la violence, elle était la violence. Cette toile n'a pas été peinte sur un chevalet, ajouta Henri. Elle était jetée à terre. Pollock la dominait. Et au lieu de poser des couches successives par l'application d'un pinceau, il projetait sa peinture avec des bâtons qu'il trempait dans des pots de couleur. Il utilisait des brosses séchées ou encore des poires qui lui permettaient d'obtenir des giclures et des volutes déliées. Regarde les masses de noir. Là, il a fait couler directement un peu de liquide depuis son récipient. Ainsi, avec des moyens rudimentaires et seulement quelques couleurs, sur une petite toile qui ne fait même pas un demi-mètre carré, il produit un tableau aussi riche qu'un organisme parcouru de tissus, que le veinage d'une pierre, ou que des milliers de constellations dans le ciel. « Moins d'Adé, j'adore. Mais on devait dire que c'était des gribouillis tout ça, et qu'un enfant pouvait faire la même chose. »
On continue à le dire. Et quel dommage, au passage, que les enfants ne fassent justement pas tout à fait la même chose.
Est-ce que tu veux que j'essaye?
Pas maintenant, Mona, sourit Henri.
En tout cas, Pollock n'a pas eu que des détracteurs.
Non seulement d'influents critiques l'adoraient, disaient qu'il était l'aboutissement de l'histoire de l'art, mais il avait aussi des soutiens parmi les amateurs et les hommes au pouvoir.
C'est-à-dire?
Aux États-Unis, après la guerre, on croit beaucoup à ce qu'on appelle aujourd'hui le « soft power », c'est-à-dire le pouvoir de la culture, des symboles et des valeurs. Pour beaucoup d'Américains à l'époque, une peinture abstraite comme celle-ci pouvait de prime abord sembler stupide, voire injurieuse, d'autant que Pollock avait un tempérament éruptif, buvait beaucoup et penchait politiquement à gauche, alors que les États-Unis étaient gouvernés par des conservateurs. Mais vois-tu, plutôt que d'humilier ou d'ostraciser Pollock, le gouvernement américain a compris que ce serait dans son intérêt de le promouvoir comme l'incarnation de la liberté et de l'audace du nouveau continent, une sorte de James Dean de l'art. C'était parfait pour se distinguer de la vieille Europe et donner une bonne leçon aux soviétiques.
Ah oui, je me rappelle que ils avaient interdit à Malevitch de faire de l'abstraction. Ça devait leur faire bizarre, ces explosions de couleurs. Mais Pollock, qu'est-ce qu'il disait de tout ça?
Il ne s'exprimait pas beaucoup, tu sais, et n'a sans doute jamais eu la conscience ni vraiment le souci des enjeux autour de lui. Il est mort jeune, ivre au volant, dans un accident de voiture en 1956. Ses États-Unis à lui étaient ceux des Amérindiens. Vois, il a un rythme, une cadence, il danse presque. L'alcool lui permettait de sortir de lui-même, de connaître des états de transe. Sa pratique de la peinture relève du chamanisme. Selon lui, l'esprit doit voyager, découvrir d'autres plans, d'autres sphères, se fondre dans la nature, dans les animaux, dans la matière. Si son art est typiquement américain, comme on a tellement voulu le marteler, c'est du côté des indigènes de son pays qu'il faut aller en chercher la source et l'expression. À ce moment précis, la pénible mouche revint taquiner le bout du nez de Mona, qui lui lança un geste rageur du revers de la main. L'insecte, paniqué, fit quelques boucles dans les airs, chercha une terre d'accueil, et finalement trouva refuge sur la peinture de Pollock, sur le rebord gauche, au niveau d'une tache de blanc presque centrale. Elle pointait ses cinq yeux dans la longueur vers la droite. Et Mona fut saisie d'un soudain vertige.
Cette mouche d'Adé, j'aimerais tellement voir la peinture de Pollock comme elle la voit, là.
Eh bien, Mona, c'est exactement comme ça que Pollock aurait voulu que tu penses. Et c'est exactement cela, une expérience chamanique. Ferme les yeux, elle obéit, et imagine-toi être cette mouche. Elle se concentra.
Te voilà 100 fois plus petite que tu n'es.
Cela veut dire que là, sur le tableau de Pollock, la peinture t'apparaît 100 fois plus grande.
« C'est beau !»
fit Mona en plissant les paupières avec force.
« Les coulures se transforment en torrents de couleurs. C'est beau, c'est tellement beau !»«
Tu pourrais même être un puceron, Mona. Un minuscule puceron, et là, tout apparaîtrait 1000 fois plus grand. » Mona, les yeux clos, avait plongé en elle-même, et voyait le tableau sous ses pieds.
Elle le voyait à plat, à la manière de la mouche qui s'y était collée. Les 8 décimètres de longueur de la toile, par une opération de l'esprit, s'étaient d'abord étendus jusqu'à former une longueur de 80 mètres, puis de 800 mètres, quand elle en vint au stade du puceron. Et voilà que la superficie augmentait continuellement, se démultipliait sans cesse dans la tête de l'enfant. Il y avait désormais des kilomètres d'entrelacs de Pollock à l'horizon.
« Je me sens rapetissé, Dadé !»
confia Mona extatique. « Tu pourrais même te projeter dans une fraction d'atome, un quark. Alors ce tableau d'un demi-mètre carré deviendrait pour toi un univers colossal, digne d'une planète inconnue. » Mona fit cet effort sans savoir si c'était elle qui devenait soudain une infime parcelle ou si c'était la toile de Pollock qui s'accroissait comme le cosmos. Devant elle, il y avait potentiellement 8 gigamètres de peinture qui s'étalaient, soit 8 milliards de kilomètres, un système solaire entier. Ses jambes flageolèrent. Son grand-père lui attrapa les épaules alors qu'elle allait s'évanouir.
« Oh, Dadé, la leçon de Pollock, c'est qu'il faut entrer en transe, je crois. »«
Exactement, mais il faut aussi en sortir, sans quoi on finit par tomber. »«
Et tomber comme une mouche, qui plus est. »
« Qui plus est, comme tu dis. »